RFI, grand reportage, Thomas Arms.
Il y a 10 ans, le tsunami frappait l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, mais le tsunami a également ravagé la côte occidentale de la péninsule thaïlandaise. 5400 personnes périrent en Thaïlande dans l'assaut des vagues géantes. Et parmi les zones les plus touchées, le village de Ban Namkem, un village de pêcheurs d'environ 5000 habitants, 1400 d'entre eux perdirent la vie dans la catastrophe. 10 ans après, notre correspondant en Thaïlande, Arnaud Dubus, est revenu sur les lieux. Quelle marque a laissé la catastrophe? Comment a-t-elle transformé la vie du village? C'est le grand reportage d'Arnaud Dubus, que l'on retrouve dans 15 minutes pour en parler.
Le temple bouddhique à la lisière du village de Ban Namkem s'appelle Wat Apai Samut, la pagode du pardon de la mer. Un nom choisi parce qu'il a été établi juste après le tsunami du 26 décembre 2004. À l'époque, un bonze fraîchement ordonné, Pramanat, s'était installé là dans le but d'apporter un réconfort moral aux victimes du tsunami. Nong Chantawong, qui a perdu son mari et ses 2 enfants dans la catastrophe, explique comment cela l'a aidé à faire face à sa situation.
Après le tsunami, Pramanat est venu aider à réconforter les victimes. Il a établi un temple. En fait, à l'époque, ce n'était pas vraiment un temple, mais une simple tente. J'allais prier avec lui tous les soirs et écouter ses sermons. Sous cette tente, les victimes pouvaient être ordonnées, bonzes ou nonnes. Et c'est là que j'ai vraiment compris les enseignements bouddhiques. Grâce à ces explications, j'ai compris qu'il était vrai que les êtres humains sont destinés à naître, à souffrir et à disparaître. J'ai perdu mes 2 enfants dans le tsunami, mais grâce à ces sermons, j'ai compris qu'il fallait l'accepter. Cela m'a donné la force de continuer à lutter.
Le village de Ban Namkem a été totalement ravagé par le tsunami. Plusieurs vagues successives de 6 à 7 mètres de haut ont déferlé sur le petit port de pêche. Toutes les maisons le long de la côte et le peu d'infrastructures dont bénéficiait le village ont été pulvérisées. Mais c'est bien sûr l'énorme coût humain de la tragédie qui a eu l'effet le plus profond sur les habitants, comme l'explique Pramanat, le bonze du temple.
Les victimes avaient des problèmes mentaux et psychologiques. Certains pouvaient avoir l'impression que ce que les villageois voulaient, c'était de l'argent, des habits. Mais en fait, ce n'était pas leur état d'esprit. Pour eux, les questions matérielles étaient secondaires. Elles ne pensaient pas aux pertes matérielles, mais elles étaient profondément déprimées. Elles demandaient « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un tel est mort? Pourquoi est-ce tombé sur ma famille ?» Alors j'ai compris qu'il fallait essayer de répondre à ces questions. J'ai essayé d'utiliser les enseignements de Bouddha pour les réconforter.
Dix ans après, la peur d'un nouveau tsunami est toujours présente, une peur lancinante, dissimulée derrière une façade de normalité. On retrouve le moine Pramanat.
L'état psychologique des villageois s'est amélioré dans les années qui ont suivi le tsunami. Pour autant, ont-ils oublié le tsunami? Non. Ils ont toujours le visage tourné vers la mer, prêts à déguerpir. Ils n'ont plus confiance. 10 ans après, ils ont encore peur du tsunami. Ils regardent sans cesse la mer. Alors est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce qu'ils peuvent rire? Oui, tout paraît normal, mais au fond d'elles-mêmes, les victimes du tsunami sont encore profondément atteintes. Par exemple, elles se demandent pourquoi il faut, chaque année, organiser une cérémonie de commémoration du tsunami.
Dans les mois qui ont suivi le tsunami, des centaines d'organisations humanitaires, d'agences internationales et gouvernementales, mais aussi de simples individus, thaïlandais ou étrangers, sont venus porter assistance à ce village devenu le symbole de la tragédie en Thaïlande. Cette masse considérable d'aide humanitaire a totalement transformé la vie de Bannamkem, lequel était jusqu'alors un hameau misérable et dangereux, où rares étaient ceux qui osaient s'aventurer, tant le niveau de crime était élevé. Manirat Grünberger, qui est originaire de la région, a créé il y a 10 ans une fondation, Love Andaman, pour aider les villageois. Elle décrit les changements qu'elle a vus sur les 10 dernières années.
Cette assistance, selon moi, a permis de nettoyer beaucoup de choses à Bannamkem. Cela a donné aux villageois une nouvelle vie, un nouveau point de départ. Avant, ils étaient dans une très mauvaise situation. Les enfants n'allaient pas à l'école. Il y avait beaucoup de pauvreté. De mon côté, avec ma fondation, après avoir discuté avec les responsables locaux, nous avons décidé de mettre l'accent sur le côté humain. Nous avons apporté un soutien en matière d'éducation. Il y a beaucoup d'enseignants volontaires très dévoués qui viennent enseigner ici, à Bannamkem et sur l'île voisine de Kokokao.
On ne peut toutefois s'empêcher d'être frappé par le nombre de maisons à vendre ou à louer et d'immeubles inoccupés à Bannamkem. Quelle est l'explication de cette allure de village fantôme ? On retrouve Manirat Grünberger de la fondation Love Andaman.
Pour les constructions, vous savez, certains donateurs se disent « on va faire des bâtiments, comme cela on pourra mettre le nom de notre organisation dessus ». Les gens veulent utiliser l'argent des donations pour faire quelque chose qui dure longtemps. Ainsi, vous pouvez voir par vous-même qu'il y a beaucoup de maisons à vendre, beaucoup de très jolis bâtiments qui sont inoccupés et personne ne s'en soucie.
Nobody do something on that.
Car quelque chose s'est cassé dans le village après le tsunami. Beaucoup de villageois ne voulaient plus vivre de la pêche et sont partis s'installer ailleurs, mettant en vente la maison qu'ils avaient obtenue à titre de compensation après la catastrophe. Nong Chantawong, la villageoise de Bannamkem qui a perdu son mari et ses 2 enfants dans le tsunami, décrit ces changements.
Deux ans après, la vie n'était plus du tout comme celle d'avant. Il n'y avait plus de chaleur humaine. Les chefs de famille, dans beaucoup de cas, avaient dû changer de métier, vendre leur maison et étaient partis ailleurs. Ils avaient appris un nouveau métier et ils ont vendu leurs biens pour pouvoir s'installer ailleurs. C'est en partie parce qu'ils craignaient un nouveau tsunami. Et les femmes qui avaient perdu leur mari dans le tsunami n'avaient pas non plus de raison de rester. Elles aussi sont parties ailleurs, par exemple, pour essayer d'ouvrir un petit commerce.
La quantité colossale d'aide humanitaire en a rendu la gestion particulièrement difficile, d'autant que l'administration villageoise était basée sur des réseaux clientélistes. Résultat, le partage de l'assistance a été inégal, comme l'explique Jason Goh, un Singapourien arrivé il y a 10 ans dans le village et qui y dirige la fondation New Light.
I would say that during the first 1 to 2 years of the tsunami,
durant les 2 premières années qui ont suivi le tsunami, malgré la très grande quantité d'aide reçue par les gens en Thaïlande, l'argent n'a pas vraiment filtré jusqu'aux gens en bas de l'échelle.
Somehow money didn't filter down to.
Les gens, avec plus d'influence dans la communauté, ont contrôlé les flux financiers ainsi que les canaux de distribution et le développement. Nous avons constaté que beaucoup de gens en bas de l'échelle n'ont pas reçu ce qu'on leur avait promis. Ou alors ils ont reçu moins, alors que d'autres ont reçu plus et certains n'ont reçu ni bateau, ni maison.
Une population spécifique a vu sa vie fortement changée par le tsunami. Il s'agit de la minorité des Moken ou gitans de la mer. Ce sont des plongeurs-pêcheurs qui vivaient sur des îles dans la mer d'Andaman. Après le tsunami, beaucoup ont été déplacés dans des villages sur la côte, comme le village de Teparak, où l'organisation Caritas International leur a construit des maisons. Un des Moken du village de Teparak Kutkla Thale évoque les changements des 10 dernières années.
La vie a beaucoup changé. C'est beaucoup plus pratique et confortable de vivre ici. C'était plus difficile quand nous étions sur l'île. Si nous étions malades, il fallait prendre un bateau pour le continent. C'était long pour arriver à l'hôpital. Aujourd'hui, notre métier est toujours la pêche.
Le tsunami a eu aussi des conséquences inattendues. Des promoteurs immobiliers ont profité de la catastrophe pour s'emparer de certains terrains le long de la côte. On retrouve Nong Chantawong, la villageoise de Ban Nam Khem.
Quand le tsunami a frappé, il a balayé les maisons et les gens qui se trouvaient sur la plage. Les personnes qui travaillaient pour les promoteurs immobiliers ont tout de suite clôturé la zone de la plage touchée et ils ont planté des pancartes pour interdire l'accès à la zone. Les villageois n'ont même pas pu rechercher les corps de leurs enfants. Après cela, les villageois se sont battus sans arrêt contre les promoteurs avec le soutien d'avocats. Mais à la fin, nous n'avons pu obtenir qu'une compensation financière. Nous n'avons jamais pu récupérer nos terrains. Nous avons dû nous installer ailleurs.
Un autre aspect controversé a été l'arrivée en force d'organisations caritatives protestantes, lesquelles, à côté d'actions humanitaires, ont tenté de convertir les villageois, pour la plupart bouddhistes, à la religion chrétienne. Shirarat Pumplian, une villageoise qui a perdu 5 personnes de sa famille lors du tsunami, décrit son expérience.
Les chrétiens nous ont beaucoup réconfortés après le tsunami. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils venaient sans cesse nous voir pour nous apporter un soutien moral. Ensuite, pendant une période, je suis allée aux offices chrétiens. Mais mes enfants n'ont pas voulu y aller. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je n'y vais plus. Je n'ai plus le temps.
Ces organisations ont-elles profité de la catastrophe pour faire du prosélytisme ? C'est incontestable. Mais Pramanath, le bonze du temple bouddhique du pardon de la mer, estime qu'il ne faut pas jeter la pierre contre ces organisations protestantes.
Profiter de la situation, mais il n'y a pas que les organisations chrétiennes qui ont profité de la situation. Il y a aussi les organisations bouddhistes qui sont venues de Bangkok. Elles sont venues aussi pour bâtir leur réputation et se montrer, à tel point que les familles des victimes en avaient ras-le-bol. Les villageois tournaient le dos aux moines bouddhistes qui sont venus. Elles ne voulaient pas leur parler. Les familles les observaient pour voir s'ils étaient vraiment sincères. Il ne faut pas blâmer les organisations chrétiennes. Elles ont leurs méthodes et au moins elles sont professionnelles. Ce n'est pas comme dans les organisations bouddhistes. Nous n'avons pas un seul professionnel de l'humanitaire. Les moines bouddhistes sont venus individuellement. Ils n'avaient pas le soutien d'organisation. Les organisations chrétiennes, elles, étaient parfaitement préparées. Elles sont prêtes à intervenir partout dans le monde.
10 ans après, Ban Nam Khem n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était avant le tsunami. La communauté d'origine s'est dispersée et une grosse partie des résidents sont des travailleurs migrants birmans employés sur des bateaux de pêche ou dans des hôtels aux alentours. Pour ceux qui restent, rien n'a été oublié. Il est clair qu'ils comprennent mal pourquoi il faut organiser des cérémonies pour commémorer les 10 ans d'une catastrophe qui les a marqués à jamais. Reportage à Bannamkem d'Arnaud Dubus, réalisation Marc Minatel.
Retrouvons Arnaud Dubus. Arnaud, vous évoquez ce déferlement d'aide humanitaire dans le sud de la Thaïlande qui a eu lieu après le tsunami dans le village de Ban Nam Khem, mais aussi dans les autres provinces touchées. Y a-t-il eu des ratés sérieux dans l'organisation de cette assistance ?
Au départ, l'aide a été massive et totalement désorganisée. Toutes les organisations voulaient être présentes à Ban Nam Khem, bien sûr parce que c'était l'endroit le plus touché, mais aussi parce que c'était l'endroit le plus médiatisé en tant que village martyr du tsunami. Il a fallu un an pour qu'une coordination soit établie entre les dizaines d'organisations présentes sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il y a eu quelques inadéquations, par exemple, comme le montre le reportage, le surinvestissement de l'aide dans la construction de maisons et de bâtiments au détriment du soutien psychologique des familles touchées et des projets de formation professionnelle plus difficiles à mettre en place, car les dons d'argent étaient tellement importants que l'un des défis posés aux organisations humanitaires et aux organismes comme la Croix-Rouge française était tout simplement de trouver un moyen rapide de dépenser l'argent avec des résultats visibles. Il y a aussi quelques erreurs. Par exemple, des centaines de bateaux en fibre de verre ont été achetés pour être donnés aux pêcheurs, mais ces bateaux sont trop légers pour être utilisés dans la mer d'Andaman. Autre exemple, à Ban Nam Khem, une organisation voulait équiper les maisons de panneaux solaires, mais les habitants ont indiqué qu'ils préféraient de beaucoup quelque chose qui puisse leur rapporter un petit revenu, comme par exemple l'établissement d'une laverie automatique qui pourrait travailler avec les hôtels.
Une autre question que l'on se pose est celle de l'état de la préparation en cas de nouveau tsunami dans le sud de la Thaïlande.
Des choses ont été faites. La Thaïlande a installé 129 tours d'alerte dans les 6 provinces affectées en 2004. En cas d'alerte, ces tours doivent déclencher leurs sirènes et envoyer des messages sonores en plusieurs langues. Le problème est l'origine de l'alerte. La Thaïlande avait loué 2 bouées électroniques de fabrication italienne en 2005 qui ont été placées dans les eaux thaïlandaises. Ce sont les signaux de ces bouées qui déclenchent l'alerte et permettent l'envoi de textos à des officiels au niveau local et national. Ceux-ci peuvent ensuite mettre en action les tours d'alerte. Le problème est que ces 2 bouées sont désactivées depuis l'an dernier car le contrat de location est arrivé à terme et n'a pas été renouvelé. Il existe bien un centre d'alerte sur la côte et la Thaïlande peut obtenir les données des bouées américaines placées dans l'océan Indien, mais cela veut dire que le délai entre le déclenchement du tsunami et l'alerte sur le rivage sera plus long. Quand on va sur place, on constate aussi que dans beaucoup d'endroits, les panneaux indiquant les routes d'évacuation pour échapper à un éventuel tsunami sont tout simplement devenus illisibles à cause des intempéries.
Certaines des zones très fortement touchées par le tsunami en Thaïlande étaient des zones touristiques, hein, comme la zone de Khao Lak au nord de l'île. Alors quelle est la situation aujourd'hui dans cette zone ?
La plupart des hôtels ont été reconstruits et le tourisme est reparti dans les années qui ont suivi le tsunami. Des entraînements relativement réguliers sont organisés pour les employés de certains hôtels et une fois par an pour la population locale. En tous les cas, les touristes, eux, affluent et il était de fait très difficile de trouver une chambre à Khao Lak pour les fêtes de fin d'année, à moins de s'y prendre plusieurs mois à l'avance.
Merci Arnaud Dubus pour votre grand reportage qui est à réécouter sur RFI.fr. Arnaud Dubus, belle journée. Portez-vous bien.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de...